Je vous invite à lire avec moi Néhémie 5, 1 à 19. Encore un problème d'argent. On dirait que mes maîtres de stage le font exprès. Néhémie 5, versets 1 à 19. Néhémie 5, versets 1 à 19. Il s'éleva de la part des gens du peuple et des femmes une grande plainte contre leurs frères judéens. Les uns disaient, « Nous, nos fils et nos filles, nous sommes nombreux. Nous voulons recevoir du blé afin de pouvoir manger et vivre. » D'autres disaient, « Nous engageons nos champs, nos vignes et nos maisons pour recevoir du blé pendant la famine. » D'autres disaient, « Nous avons emprunté de l'argent sur nos champs et nos vignes pour le tribut du roi. » Pourtant, notre chair est comme la chair de nos frères, et nos fils sont comme leurs fils. Nous réduisons à l'esclavage nos fils et nos filles. Plusieurs de nos filles y sont déjà réduites. Nous sommes sans ressources. Nos champs et nos vignes appartiennent à d'autres. Je fus très fâché lorsque j'entendis leurs cris. Je résolus de faire des reproches aux notables et aux magistrats, et je leur dis, « Quoi ? Vous prêtez à intérêt à vos frères ?» Et je convoquai à leur sujet une grande assemblée. Je leur dis, « Nous, nous avons racheté selon nos moyens nos frères judéens vendus aux nations. Vous, vous vendriez vos frères et c'est à nous qu'ils seraient vendus. » Ne trouvant rien à répondre, ils se turent. Puis je dis, vous n'agissez pas bien. Ne devriez-vous pas vivre dans la crainte de notre Dieu pour ne pas être outragé par les nations, par nos ennemis? Moi aussi, mes frères et mes serviteurs, nous leur avons prêté de l'argent et du blé. Remettons-leur cette dette, je vous prie. Je vous en prie, rendez-leur aujourd'hui même leurs champs, leurs vignes, leurs oliviers et leurs maisons, ainsi que le centième de l'argent, du blé, du vin et de l'huile que vous avez exigé d'eux comme intérêt. Ils répondirent, nous les rendrons, nous ne leur demanderons rien, nous ferons ce que tu dis. Alors j'appelai les prêtres, devant lesquels je fis jurer de tenir parole, et je secouai la poche de mon manteau en disant que Dieu secoue de la même manière hors de sa maison et du produit de son travail tout homme qui n'aura pas tenu parole, et qu'ainsi cet homme soit secoué et laissé vide. Toute l'assemblée dit, qu'il en soit ainsi, et loua le Seigneur, et le peuple tint parole. Dès le jour où le roi ordonna que je sois leur gouverneur dans le pays de Juda, depuis la 20e année jusqu'à la 32e année du roi Artaxerxès, pendant 12 ans, ni moi ni mes frères n'avons vécu des revenus du gouverneur. Avant moi, les premiers gouverneurs accablaient le peuple et percevaient de lui du pain et du vin ainsi que 40 cycles d'argent. Leurs serviteurs, eux-mêmes, dominaient en maître sur le peuple. Mais moi, par crainte de Dieu, je n'ai pas agi de la sorte. Bien plus, j'ai travaillé à la réparation de cette muraille. Nous n'avons acheté aucun champ et tous mes serviteurs rassemblés étaient à l'ouvrage. J'avais à ma table 150 hommes, judéens et magistrats, sans compter ceux qui venaient à nous de nations alentours. On apprêtait chaque jour pour mon compte un bœuf, 6 moutons choisis et des volailles. Et tous les 10 jours, on préparait en abondance tout le vin nécessaire. Malgré cela, je n'ai pas réclamé les revenus du gouverneur parce que le service pesait sur le peuple. Souviens-toi favorablement de moi, mon Dieu, à cause de tout ce que j'ai fait pour ce peuple. Voici la parole de Dieu. Petit rappel, Néhémie a entrepris la reconstruction des murailles après plusieurs mois de prière et la bonne main, et comme la bonne main du Seigneur reposait sur lui, il a su fédérer le peuple autour du projet Néhémie 2. Et toujours dans la prière et dans la dépendance de Dieu, il a réussi à ce que le peuple tienne ferme face aux moqueries, ça c'est ce qu'on a vu la dernière fois, Néhémie 4. Pourtant, notre texte est assez bizarre. Il fait une pause dans la construction. On voit d'ailleurs que la fin du chapitre 4, verset 17, la construction ne reprend qu'au chapitre 6, verset 1. Que se passe-t-il pour que le récit de la construction s'arrête? Y aurait-il une chose suffisamment grave qui puisse saper à la base le projet même de la construction? Je pourrais avoir un peu d'eau, s'il vous plaît. Sinon, je ne vais pas terminer le message. Avant de restaurer les murs, la communauté des Israélites devait se réconcilier avec elle-même. Merci, Antoine. Avant de restaurer les murs de la communauté des Israélites, il fallait réconcilier la communauté des Israélites avec elle-même. Les ennemis et les murs de la ville se retirent pour laisser la place à un problème bien plus grave, plus subtil peut-être. La famine et l'exploitation sociale mettent en péril l'unité de la communauté. Et ça, c'est mon premier point. Quand mon plaisir prime sur celui de Dieu, la communauté est proche de l'implosion. Alors, qu'est-ce qui est en train de se passer dans ce passage? C'est le grand tollé. Une grogne sociale qui mijote, qui était sans doute depuis longtemps, mais qui avait été maintenue par l'effort collectif de construction de la muraille. L'effort pour se défendre des ennemis extérieurs avait peut-être masqué ces tensions internes. Toute une partie du peuple se met à se plaindre. Même les épouses. Verset 1. Alors, pour que les épouses s'y mettent, alors que Néhémie n'en parle même pas, c'est que la situation était craignosse. Cette grogne est tournée vers des frères juifs. Est-ce une révolution? Est-ce justifié? Que se passe-t-il? À cause des travaux et à cause de l'absence des liens commerciaux avec les peuples environnants, les grandes familles israélites n'étaient plus en mesure de produire du grain à manger pour rester en vie. Ils devaient donc en acheter. Or, étant pauvres, il était difficile pour eux de le payer. Face à cette situation, ils ont donc hypothéqué leurs biens. Et ce sont leurs champs, leurs vignes et leurs maisons qu'ils ont hypothéqués. Hypothéquer, grosso modo, c'est vous avez une dette auprès de quelqu'un, comme le créancier n'est pas sûr que vous allez la payer, il vous demande une garantie. Si vous ne payez pas, il récupère vos terres. Et il va la faire fructifier et obtenir le remboursement de son prêt. Mais vous comprenez bien que si vous hypothéquez vos champs et vos vignes, vous amputez votre revenu futur. Et la situation va ne faire que se dégrader. En plus, non seulement, nous dit le texte, d'emprunter pour se nourrir, il devait aussi emprunter pour payer l'impôt à l'empereur perse. Une taxe foncière sur les propriétés, c'est pas nouveau. Un peu comme au Monopoly. Je ne sais pas si vous avez déjà joué au Monopoly, mais vous savez, à la fin, là, quand vous avez construit les maisons et que vous commencez à payer, et puis vous n'avez plus d'argent, vous êtes obligé de tourner les cartes, et là, vous êtes obligé de les hypothéquer. En général, c'est la fin pour vous. Hein. C'est vraiment la fin. Quoi, hein. Vous attendez tranquillement de tomber chez votre adversaire qui va vous plumer. C'est un peu le résumé de la situation. Jusque-là, on se demandait qui étaient ces personnes qui hypothéquaient ces biens. Ce sont ces frères juifs. Des riches juifs nous ont prêté, ont bénéficié de ces hypothèques et maintenant, comme nous, n'arrivons pas à payer, nous sommes même obligés de leur donner nos enfants en esclavage. Nos fils doivent travailler pour les créanciers pour payer nos dettes. Et comme cela n'était pas suffisant, même les filles sont réduites en esclavage. Et vous doutez bien que le service dont il était question, c'était notre nature de service. Sans doute un service d'ordre sexuel, une deuxième épouse en tant que concubine, une autre source d'humiliation pour ces juifs pauvres. La conclusion est terrible. Notre pauvreté nous a amenés à nous endetter, l'impossibilité de nous rembourser nous a conduit à vendre nos terres. Et comme cela ne suffisait pas, maintenant nos fils et maintenant nos filles doivent être esclaves pour payer nos dettes. Et tout cela, c'est envers nos frères juifs. Certes, ils sont riches, mais ce sont nos frères. Le malheur des uns, les paysans et les agriculteurs, a fait le bonheur des autres. Les riches ont profité de la situation difficile des paysans pour s'enrichir. Ils ont augmenté leur patrimoine foncier et le nombre de leurs femmes. Si vous aviez été à Wollongong, vous sauriez très vite que la terre et les femmes, en nombre, démontrent la richesse de celui qui les possède. Ainsi, dans cette situation de crise, le malheur des uns a fait le bonheur des autres. Je me rappellerai toujours de ce gérant de fonds qui gère les pensions des retraites américaines, qui, lorsque la bourse française avait baissé de 15%, se targuait d'avoir pris 4%. Vous doutez bien que dans ce système à somme nulle qu'est la bourse, il y avait des personnes, des petits porteurs qui avaient perdu 30%. Ce jour-là, j'ai décidé que j'allais arrêter de mettre 1 euro en bourse. Le malheur des uns faisait le bonheur des autres. Il arrive souvent que sur le marché agricole, une région soit touchée par une catastrophe. Une autre région bénéficie de prix élevés justement à cause de la pénurie. Mais la particularité avec notre situation, c'est qu'elle est encore pire. C'est au sein même de la même famille ethnique, au sein de ce peuple constitué autour d'un Dieu unique, le Dieu d'Israël, que le drame se déroule. Et de manière un peu plus large, l'intérêt personnel des riches avait pris le pas sur l'intérêt du groupe, sur l'intérêt de la communauté et bien sûr de Dieu. Voilà bien un drame qui pourrait se dérouler parfois chez nous. Notre moi est tellement en demande de reconnaissance, tellement en demande d'épanouissement, tellement en demande de sécurité qu'il exige. Il existe tellement de ceux qui nous entourent qu'ils doivent se soumettre à lui. La liberté des uns qui s'émue en terrible tyrannie se fait toujours au détriment des uns, des autres. Les uns sont libres au détriment des autres. Ainsi, la liberté que notre société a promue au rang des valeurs divines devient destructrice. Et toujours en fin de compte, une liberté des riches sur les pauvres. On parle un peu de PMA actuellement, vous avez déjà entendu parler, la procréation médicalement assistée. Et derrière la souffrance de ne pas pouvoir porter d'enfants chez des personnes hétérosexuelles, et la souffrance de ne pas pouvoir avoir des enfants chez des personnes, des familles homosexuelles, hommes ou femmes d'ailleurs, on a imaginé la possibilité de recourir à des mères porteuses. Ces mères porteuses sont là pour porter des enfants de couples qui ne peuvent pas avoir des enfants, mais surtout en réalité pour les couples d'homosexuels hommes qui ne peuvent pas avoir des enfants. Vous comprenez bien que ces problématiques n'intéressent vraiment et particulièrement que les pays riches, ceux qui ont les moyens de se payer les services d'une femme pour porter son enfant. Il est bien évident que ce sont des femmes pauvres qui vont porter les enfants de femmes riches ou pour des hommes riches. Ainsi, derrière la PMA et le principe des mères porteuses, il n'est rien d'autre qu'une manière d'étendre l'esclavage. Encore une manière pour l'Occident riche d'asservir le reste du monde pauvre. Quand le moi prime sur toute autre considération, elle tend irrémédiablement vers l'esclavage des autres, vers moi. Cela se produit partout dans toutes les relations. Je crois que naturellement, parfois, on vit cela même dans l'Église. Naturellement, on est porté à aller vers les gens qui peuvent nous apporter quelque chose. Nos relations même entre frères et sœurs sont guidés par l'intérêt, notre propre intérêt, ce que nous pouvons en retirer. Naturellement, on est poussé à aller vers ceux qui nous ressemblent, à ceux qui sont pareils que nous. Pourtant, Dieu nous encourage à nous intéresser à ceux vers qui nous n'irions pas premièrement. Pour des personnes qui sont de différentes cultures, encourager à vivre, à expérimenter, à nous ouvrir à des personnes qui n'ont pas le même niveau d'éducation que nous. Et s'engager pour elle. Les groupes de maisons sont le lieu où vous pouvez vivre le don de soi non pas votre propre intérêt premièrement, vers des personnes vers qui vous n'iriez pas habituellement. Cette situation est-elle normale? Cette situation dans laquelle Néhémie est confronté est-elle normale? Néhémie est très fâché, nous dit le texte, verset 6. Il a compris qu'il y a la situation est grave. Comme un château de cartes qui tient dans un équilibre précaire, toute la société juive de Juda est mise en danger face à cette situation. Nous sommes sans doute aux portes d'une guerre civile, d'une révolution au sein de la société juive. Néhémie est profondément attristé par la capacité que certains juifs n'ont aucun scrupule à asservir leurs frères. En plus, Néhémie voit que ces juifs appliquent scrupuleusement la loi juive qui n'interdisait pas les prêts à hypothèque. Les juifs, ainsi, avaient appliqué la loi à la lettre. Ils maximisaient l'utilisation de la loi, allant jusqu'à gager non seulement le patrimoine immobilier, mais aussi le patrimoine humain. Par contre, ils n'avaient pas le droit de faire des prêts à intérêt. Mais ils ne le faisaient pas. Ils faisaient des prêts et ils hypothéquaient. Ça, c'était autorisé par la loi. Mais Néhémie est très fâché. Mais quand il est fâché, là, il ne se laisse pas gagner par son emportement. Il est résolu, il réfléchit de quelle manière il va pouvoir agir pour ces pauvres de sa communauté. Car dans cette affaire, les juifs riches étaient sans doute des hommes importants qui devaient sans doute soutenir son projet de construction. Ils ne pouvaient pas les traduire devant les tribunaux. Il y a sans doute des magistrats parmi eux, nous dit le texte. Alors avant de se lancer dans une accusation, qu'est-ce qu'il fait? Il expose le problème. Vous prêtez à intérêt à vos frères. Ce n'est pas le mot habituel pour intérêt. Mais à mon avis, Néhémie découvre, à mon avis, avec subtilité, que même s'ils n'ont pas enfreint la loi, et qu'ils n'ont pas... Néhémie a vu que leur avidité a réfréné leur pulsion d'en vouloir plus. Ils ont donc même fait ce que la loi interdit. Ils ont même poussé jusqu'à l'extrême l'application de la loi. Ainsi, l'intérêt du prêt, dont il est question ici, c'est sans doute, n'était pas un intérêt, mais celui d'une dureté à l'égard d'hommes déjà pauvres, et celui d'un profit en faveur d'hommes riches. Il a su discerner l'attitude légaliste par excellence, celle des riches qui s'en tiennent à la règle de la loi, qui croient l'appliquer à la lettre, pourtant ils en ont perdu l'esprit. Ils abusent tellement de la situation de riches vis-à-vis des pauvres qui déshonorent Dieu par leur soi-disant application littérale des Écritures. Voilà souvent notre cœur, mes frères et sœurs. Plutôt de s'intéresser à avoir une attitude qui vise le plaisir de Dieu, nous préférons parfois nous limiter à l'application des lois que Dieu donne, car nous savons qu'en faisant cela, nous baissons l'exigence. Nous opérons un raisonnement sensiblement similaire quand nous posons la question de savoir combien nous devons donner. Donner la dîme, 10% de nos revenus, est pour beaucoup de chrétiens riches très libérateur. Car ils peuvent donc désormais vivre avec les 90% autres sans se préoccuper de ce que Dieu a à dire sur ça. Si nous nous souvenons que l'ensemble des biens que nous avions appartient à Dieu et que nous n'en sommes que les gestionnaires, alors la perspective change. Dieu n'est plus aux commandes de 10%, mais de l'ensemble. Notre perspective n'est plus poussée par une obligation à satisfaire, mais par un plaisir à lui rendre une joie profonde de lui donner ce qu'il nous a déjà donné. Devant l'absence de réponse, ce grief permet à Néhémie de lancer la convocation d'une grande assemblée. Là, de manière très étonnante, Néhémie dénonce l'attitude des riches, juifs devant le peuple tout entier. Il a fallu du courage pour faire ce pas. Il aurait pu essayer de les persuader comme ça, en parlant, vous savez, à moitié. Mais sa dénonciation n'aurait peut-être pas eu un résultat. Et sa dénonciation, elle tourne autour de ça. Nous avons été rachetés de l'esclavage auprès des nations païennes. Comment pouvez-vous mettre vos frères en esclavage? Les responsables accusés ne répondent rien. Ils ne se justifient pas. D'une certaine manière, il peut être coupable. Néhémie n'a pas failli à sa responsabilité. Il n'a pas fui ses responsabilités. Il a dénoncé le péché, même de ceux qui le soutenaient dans ce programme de reconstruction. Si Dieu nous a confié des responsabilités dans son Église, assumons ce rôle aussi, celui de rappeler la grâce de Dieu qui dénonce le péché pour le salut de nos frères. Mais il est aussi remarquable que les responsables accusés ne se sont pas justifiés. Ils n'ont pas essayé justement de montrer leur application littérale des Écritures. Non, leur conscience était encore susceptible d'être reprise. Quel que soit notre statut dans l'Église, que nous soyons seulement un membre qui vient d'intégrer l'Église depuis peu de temps, ou un ancien de l'Assemblée, sommes-nous encore capables de recevoir un conseil, un encouragement à changer? Sommes-nous prêts à être repris pour notre bien par un frère qui nous aime? Le verset 9 est névralgique. Néhémie, après avoir obtenu l'assentiment des responsables accusés, dénonce clairement et dit « Vous n'avez pas bien agi. Ce n'est pas l'attitude de ceux qui ont poussé par la crainte de Dieu, par son honneur, car une telle attitude, au contraire, va susciter la moquerie des autres peuples. » Néhémie, avec une grande franchise, s'intègre dans le problème. Il ne fait pas que dénoncer les Juifs riches. Qu'est-ce qu'il fait? Il avoue lui aussi avoir prêté de l'argent et de la nourriture. Il n'est pas aussi allé aussi loin que les autres en rendant esclaves ses frères et sœurs juifs. Mais Néhémie veut être un modèle. Il veut s'impliquer dans l'effort à consentir envers les pauvres. Il ne veut pas s'exclure du problème. Il s'invite lui aussi à remettre les dettes. Puis il invite à rendre les terres et leurs maisons aux autres frères juifs. Néhémie est un responsable courageux. Il corrige même les responsables, mais il ne s'en tient pas là. Il s'identifie même à ceux qui ont péché, si son comportement n'a pas été juste, et tout cela à cause de l'honneur de Dieu, le plaisir de Dieu. Même lui se rend compte que la situation n'aurait pas dû nécessiter des brèmes, mais des dons. Ayons du courage, mes frères et sœurs, responsables. Confessons nos péchés pour montrer à la communauté que nous ne faisons pas que juger les péchés des autres. Et surtout pour que l'ensemble de la communauté, chaque frère et sœur ici présent, puisse être contaminé par ce réveil qui pousse chacun à confesser nos péchés les uns aux autres. Le diable éprouve une grande joie à voir les chrétiens cacher leurs péchés. Car une telle mise dans l'ombre permet le plein épanouissement de ceux-ci. Par contre, si vous confessez vos péchés devant Dieu et devant les hommes, alors s'ouvre une vie dans la lumière qui ne permet plus à la pourriture de trouver un terrain propice. Je nous en supplie, vivons le pardon des péchés dans tous les lieux où nous nous rencontrons, dans les cellules de maison, dans tous les groupes où nous pouvons aller. Notre vie de sainteté est un travail d'équipe. Face à cette injonction, les coupables n'avaient pas le choix, ils se sont engagés à rendre. Le problème avait été résolu. On ne sait pas si l'assemblée solennelle fait office de témoin ou de juge, on ne sait pas très bien quels sont ces prêtres, qu'est-ce qu'ils font office de quoi. Mais Néhémie veut entériner leur décision, alors qu'est-ce qu'il fait? Il fait un geste un peu symbolique. Et le peuple tout entier valide l'engagement ainsi. Pas seulement la majorité pauvre, mais l'ensemble. Tout cela n'est pas motivé par un motif humanitaire, mais par la foi en Dieu. C'est par crainte de Dieu qu'il exige le rehaussement d'une justice sociale. Et ainsi, pour éviter la honte et le mépris des nations environnantes. Quand la tentation du moi tend à avilir toutes les relations, le plaisir de Dieu tend à rendre parfaites les structures relationnelles abîmées par le péché. Ainsi, j'aimerais vous partager ce qu'on a vécu à Oulu. Quand on se rapproche de Dieu et de sa perspective, on se rapproche des autres. C'est exactement ce qu'on a vécu à Oulu. On était obligé d'être centré sur Dieu, sur son plaisir, sur sa volonté, sur son secours, qu'on était décentré de notre propre intérêt. Et c'est alors qu'on a expérimenté quelque chose d'extraordinaire. On a pu voir que Dieu opérait un rapprochement entre les membres d'une famille. Un rapprochement entre les membres, entre un couple. Et même entre les membres d'une équipe et d'une église. Si vous vivez Dieu et son plaisir en famille comme en couple, ou entre frères et sœurs, premièrement, vous expérimentez immanquablement un rapprochement avec vos frères et sœurs. Le symbole de la bicyclette. Plus on se rapproche de la roue, plus on se rapproche les uns des autres. Voici le véritable secret de l'hédonisme chrétien, disait le pasteur John Piper. Vivez le bonheur de Dieu, son royaume, sa volonté, son plaisir, et vous obtiendrez un certain bonheur humain, même si celui-ci ne sera pas exempt de difficultés et de souffrances. Mais Néhémie, et c'est mon deuxième point, et il va être beaucoup plus court, nous montre un modèle pour sortir de la pression du moi. L'histoire de la crise racontée, c'est le moment de faire une pause dans le récit, de voir de quelle manière Néhémie a agi en tant que responsable. Nous apprenons à l'occasion qu'il a été gouverneur pendant 12 ans dans son premier mandat et malgré ses fonctions et contrairement à de nombreux chefs d'État du monde actuel, il n'a pas exigé de sa fonction un surplus de nourriture comme il avait droit et des taxes supplémentaires. Ce qui a d'ailleurs été différent de ses prédécesseurs qui, eux, pesaient un lourd fardeau d'impôts, notamment en indemnité de nourriture et de vin, pour sans doute une vie luxueuse. Ça, on a bien vu aussi en Côte d'Ivoire. Par respect pour Dieu, Néhémie s'est retenu de telles pratiques. Ses serviteurs et fonctionnaires en dessous de lui étaient plutôt affectés à la tâche de reconstruire, nous dit le texte, les murailles. Malgré sa fonction importante, Néhémie n'en a pas profité pour acquérir des terres et devenir un grand propriétaire foncier, il aurait pu. Toutefois, de par sa fonction de gouverneur de Juda, Néhémie avait des obligations de recevoir beaucoup de personnes à sa table. Des responsables du peuple, des gens qui venaient de l'Empire perse, des nations environnantes. Malgré le coût de ces réceptions, vous savez ce qu'il faisait? Il les prenait sur ses deniers. Il faisait pas lever des impôts supplémentaires. Et cela pour deux raisons particulières, mais sa motivation principale était sa révérence filiale envers Dieu, qui l'empêchait de dominer le peuple, qui accordant une importance particulière au verdict céleste, et dans une deuxième point, à cause de sa compassion fraternelle. Parce que la servitude pesait déjà lourd, nous dit le texte biblique. Dans son style, parfois un peu brusque, Néhémie incarnait deux grands commandements et anticipait le mépris joyeux de ses droits que Paul exposera plus tard. Ainsi, promouvoir le bien-être de Dieu, c'était promouvoir sa cause. Rien ne doit être fait pour contrecarrer le plan de Dieu. Au 5e siècle, Jean Chrysostome, un grand prédicateur chrétien, s'en prend à ceux qui voulaient amasser des richesses, qui amassent avec tant d'ardeur ce qui ne peut servir qu'à nous fermer les portes du ciel. Avec une observation intéressante, il dit « Je n'ai jamais point entendu dire de notre temps que quelques pauvres soient tout à coup morts de faim. Il y a une infinité de remèdes contre la pauvreté. Moi, par contre, je puis faire le constat de voir combien de personnes ont été tuées ou en secret ou en public pour le bien et pour leur richesse. Oui, cette crainte perpétuelle des voleurs, est-ce que le riche n'est pas tenter d'aggraver la pauvreté pour calmer sa peur du manque ou pour entretenir son avidité perpétuelle. Les dérives de l'économie mondiale, à mon avis, nous montrent ça. Néhémie nous encourage à sortir de la logique de la crainte humaine pour nous tourner vers une crainte divine, comme Chrysostome nous l'a entrouvert comme perspective. La crainte résultant des circonstances humaines nous envahit souvent. Et la crainte est moteur de beaucoup de choses dans notre monde. Mais nous avons vu que nous, la crainte de Dieu, ce n'est pas une crainte qui nous paralyse, mais au contraire, c'est une crainte qui nous amène à avoir la paix. Elle découle d'une juste crainte, d'une juste révérence à Dieu. Craindre Dieu, c'est l'honorer, honorer à ce qui lui est dû. Et on voit que cette crainte est intimement liée à l'amour de Dieu et à l'obéissance à ses commandements. Souhaiter l'honneur de Dieu et son plaisir, c'est nous tourner vers une nouvelle perspective. Néhémie était très riche. Il était même très très riche. Très 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 riche. En tant que ministre de l'empereur de Perse, sa présence à Suse, la capitale de l'Empire, au premier chapitre, faisait de lui un homme très haut placé, un ministre en vue, un proche conseiller du roi, l'empereur en plus de l'époque, était l'empereur le plus, sans doute le plus grand de l'époque. Pourtant, malgré sa position, ses richesses, et suite à son réveil personnel, il s'est engagé depuis le départ en faveur de l'honneur de Dieu, son plaisir, tout en comptant sur lui. Pendant toute sa direction de gouverneur, loin d'oublier le réveil intérieur qu'il avait vécu, et ne souhaitant pas s'enrichir, bien au contraire, sa vie en tant que gouverneur a été marquée par le don, la générosité, l'amour de son peuple. Il préférait ne pas ajouter des souffrances supplémentaires, des fardeaux supplémentaires. Son attitude aurait été attaquable. Il n'aurait pas été irréprochable. Néhémie est mu par l'amour, par la grâce de Dieu d'être généreux pour son peuple. Il dépense ses ressources, son argent. Il n'accumule pas. Non, au contraire, il dépense ses biens pour la gloire et le plaisir de Dieu. Ainsi, il est un modèle à suivre. Et ce modèle de Néhémie, ce don de soi en matière financière, nous pousse vers un autre don. Un autre qui a tout donné pour les autres. Non content de sa situation glorieuse, il ne s'est pas satisfait de celle-ci, mais par amour, il est venu sur la terre pour porter nos souffrances et pour porter nos péchés. On en a parlé tout à l'heure. Il a même été l'objet de sa colère. Tout cela pour porter sur lui la condamnation que méritaient nos actes. Il n'a pas regardé ce qu'il pouvait obtenir de ce voyage paterne. Il a regardé à la détresse de l'humanité. Et par amour, de conseil avec son père, il a décidé de donner sa vie pour les hommes et les femmes qui ne le connaissaient pas et même qui avaient décidé de vivre leur vie sans lui. C'est ça. L'évangile. C'est ça, le cœur de Dieu. Le don de soi pour son peuple. Vous connaissez la devise peut-être, unis nous vaincrons, divisés nous échouerons. Elle a été reprise à de nombreuses reprises dans l'histoire. Et ce qui nous gardera de la division, nous dit Néhémie, c'est le plaisir de Dieu, non pas le nôtre. Quant à la cohérence chrétienne, c'est-à-dire la capacité à vivre une parole cohérente avec nos actes, Néhémie nous a montré l'exemple, mais il nous invite à suivre aussi un autre exemple, celui de Christ, qui nous amène à sa suite. Le seul moyen de vivre cette cohérence sera d'être poussé, non par je ne sais quelle obligation, mais bien par le plaisir de Dieu, l'honneur de Dieu. Ainsi, notre combat chrétien ne se résumera pas à un combat. Notre combat chrétien est un combat de plaisir. Le combat du plaisir de Dieu contre le plaisir du péché. Que Dieu nous vienne en aide. Prions.